Soit à date à janvier 2025. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
18h sur Europe 1, les infos, Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. La guerre entre Israël et l'Iran va-t-elle se poursuivre? Donald Trump demande aux deux pays de trouver un accord. Il assure que Vladimir Poutine se dit prêt à jouer un rôle de médiateur. Le président américain n'exclut pas que son pays s'implique dans le conflit. Déclaration alors que les échanges de tirs se poursuivent. L'État hébreu a mené une frappe il y a quelques minutes sur l'aéroport de Mashhad. Benjamin Netanyahou assure que l'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils. Depuis vendredi en Israël, 13 personnes ont été tuées. L'Iran qui assure que ces attaques cesseront quand Israël mettra un terme à son agression. Le ministre des Affaires étrangères iranien accuse aussi Tel Aviv de chercher à faire dérailler les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis. Les autorités précisent que 128 personnes sont mortes dans le pays depuis vendredi. Emmanuel Macron lui dit espérer un retour au calme dans les prochaines heures. Déclaration du président français depuis le Groenland. Emmanuel Macron, qui est le premier chef d'État étranger à se rendre sur le territoire depuis les menaces d'annexion lancées par Donald Trump. Bruno Retailleau prend la parole après le drame de Nogent où une surveillante a été poignardée par un élève. Dans les colonnes du JDD, le ministre de l'Intérieur dénonce une société sans repères depuis mai 68, minée par une gauche destructrice. Il se dit favorable à la généralisation des courtes peines de prison dès le premier délit grave. Toujours dans l'actualité politique, LFI demande aujourd'hui des excuses après la prise de parole de Jérôme Guedj hier au congrès du PS à Nancy. Congrès qui s'achève aujourd'hui. Il a qualifié le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de salopard antisémite. L'épisode orageux qui touche la France depuis maintenant plusieurs jours perd en intensité aujourd'hui, mais une dizaine de départements de l'Est restent en vigilance orange. Ces orages ont provoqué 2 décès sur le territoire, dont un à Paris. Les obsèques de certaines victimes du crash du Boeing 787 d'Air India ont débuté aujourd'hui, 72 heures après le drame. Ce matin, au moins 12 corps ont été rendus aux familles. Au total, 279 personnes ont perdu la vie jeudi dans l'accident. Un autre accident a lieu en Inde ces dernières heures. 7 personnes, dont un bébé, ont été tuées dans le crash d'un hélicoptère, cette fois dans les montagnes de l'Himalaya. L'accident pourrait être dû aux mauvaises conditions météorologiques. Et puis on termine avec un mot de sport. Tadej Pogacar a remporté le critérium du Dauphiné, le premier de sa carrière, à l'issue de la 8e étape marquée par la victoire du Français Lenny Martinez et de la dernière course en carrière de Romain Bardet.
Europe 1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais restez bien avec nous dans un instant sur Europe 1, La Voix et Livre présenté par Nicolas Caro.
Europe 1. 18h-19h,
La Voix est Livre.
Nicolas Caro.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix est Livre. Nous partons en Bretagne et 100 ans en arrière aujourd'hui avec le roman de la lauréate du prix littéraire européen GMF. Visite de bibliothèque aussi, nous partirons chez l'écrivaine Emma Becker. Et puis à la fin de l'émission, évidemment, les chroniqueurs nous rejoignent pour la BD et la littérature jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est Livre, c'est parti. Premier chapitre. Vous le savez, tous les ans est décerné le prix littéraire européen GMF, à chaque fois 5 sélectionnés, des romans qui mettent en valeur et en scène un élan collectif, ou de la solidarité, ou des liens humains en général. Et cette année, le prix a été remis à Sophie Broca pour Le Lit Clos, c'est chez Mialet Barreau. Bonsoir Sophie Broca.
Bonsoir.
C'est votre 5e roman, c'est bien ça ?
C'est ça.
Évidemment, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix. Et évidemment, le journaliste a toujours l'air d'un idiot quand il dit « Est-ce que vous êtes heureux d'avoir ce prix ?» Mais Sophie Broca, est-ce que vous êtes heureuse d'avoir reçu ce prix ?
Oui, je suis heureuse d'avoir reçu ce prix. C'est toujours magique. Quand on écrit un livre, on est tout seul à sa table de travail. Et l'idée que les mots voyagent dans des mains qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, mais qu'ils trouvent leur chemin. Oui, c'est magique, donc je suis très contente.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des écrivains plus ou moins sensibles au prix. Alors, tout le monde, par politesse, quand même, les accepte. Mais il y en a à qui ça fait vraiment plaisir de le recevoir, ou vraiment, ils sont très déçus quand ils ne l'ont pas, alors qu'ils étaient sélectionnés. Vous êtes quoi, entre les deux ou...
Alors moi, j'ai 5 romans, j'ai eu 2 prix déjà, mais voilà, et donc j'écris pas pour avoir des prix, mais avoir un prix, surtout un prix de lecteur comme celui de Europe 1 GMF, ça veut dire que le livre a trouvé son public, et je pense que ça, ça fait plaisir à tous les écrivains.
Alors allons-y, le lit clos. On est en 1924 à Douarnenez avec les peines sardines. Qu'est-ce que c'est que les peines sardines ?
Les peines sardines, c'est les femmes bretonnes qui travaillent dans les usines où on met en boîte les petites sardines qui sont un poisson bleu très fragile qui doit être tout de suite frit et mis en boîte pour pas s'abîmer. Et ces peines sardines, elles travaillent dans des conditions épouvantables. Elles travaillent quelle que soit l'heure du jour et de la nuit en fonction du retour de la pêche. Elles travaillent avec leurs sabots qui collent à la glaise. Elles travaillent avec les entrailles des sardines qu'on arrache. Et elles travaillent pour une misère, qu'elles soient toute petite fille à 8 ans ou vieille femme à 80 ans.
On va creuser tout ça, mais effectivement, aujourd'hui encore, on utilise le terme peine sardine. C'est plus pour, c'est plus folklorique maintenant, ou alors ça existe encore vraiment pour les gens des conserveries, ou c'est les gens de Douarnenez en général?
Je crois qu'en Bretagne, c'est encore un nom très, très inscrit dans la tradition, parce que ces femmes, cette immense grève de femmes qui s'est passée en effet entre la fin de 1924 et le début de 1925, c'est sans doute la plus grande grève de femmes de France, et donc c'est resté dans les mémoires. Voilà, peine sardine, ça fait partie de l'identité bretonne.
Sophie Broca, dans Le lit clos, vous racontez donc cette histoire de 1924, mais c'est un roman, attention. Cela dit, très inspiré de la réalité. Comment vous êtes tombé sur cette histoire avec un grand H ?
Une conversation pendant un déjeuner avec un ami breton qui est un grand navigateur, un grand champion de voile qui a raconté cette histoire entre la poire et le fromage. J'ai trouvé que c'était romanesque, ces 3000 femmes en grève pendant 5 semaines pour gagner 20 centimes de plus. Voilà, à partir de ce fait historique qui n'est pas très connu en dehors de la Bretagne, on pouvait déployer tout un imaginaire.
Pas très connu, mais on a fêté le centenaire, donc on en a un petit peu parlé.
Absolument.
Et puis, il y a de temps en temps, il y a des musiques qui vont avec, on va y venir aussi. Mais on commence par le début, on est avec Rose pour l'instant. Ça va pas fort au début du roman. Elle est obligée d'aller travailler, en fait. On est en 1924, elle a 17 ans. Sa mère vient de mourir en mettant au monde son petit frère, qu'elle appelle le barbare, au vu des circonstances. Et elle est obligée de subvenir aux besoins de la famille.
C'est ça, son père, donc elle est paysanne et élevée dans la religion catholique qui corsette quand même et qui organise toute la vie bretonne, la morale, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et donc son père va l'envoyer à l'usine pour qu'elle rapporte de l'argent à la maison et elle va découvrir avec toutes ses peurs, toutes ses angoisses, la ville, la solidarité ouvrière, le travail à l'usine, obéir, les cadences. C'est à la fois effrayée et très excitée par toutes ces découvertes que Rose va arriver à la friture de Douarnenez.
Et alors, on la met à l'huilage. Qu'est-ce que ça veut dire, l'huilage ?
C'est une opération, dans les multiples opérations qui existent pour la mise en boîte des sardines, c'est une opération qui consiste à empiler les boîtes de sardines et à les remplir sans perdre une goutte de la précieuse huile, à les remplir les unes après les autres dans des temps contrôlés pour aller vite.
Et alors, bon, évidemment, l'écueil dans ce genre de roman inspiré de faits réels, c'est qu'on sente les archives, c'est qu'on sente le travail documentaire. Là, pas du tout, mais j'imagine que ça, par exemple, l'huilage, vous vous êtes renseigné ?
Oui, mais j'ai lu, je suis allée à Douarnenez, j'ai visité le musée, j'ai parlé, j'ai lu tous les journaux de l'époque, le quotidien de l'époque, j'ai lu les éditions des 5 semaines, voilà, pour me rapprocher.
Ouest Éclair, non ?
Ouest Éclair, pour me rapprocher du fond historique. Après, je ne faisais pas un travail d'historienne, donc ça m'a permis de me dégager. Je voulais raconter les odeurs, la laine fétide de la ville à cette époque-là, avec cette odeur de friture qui pesait dans l'air. Je voulais raconter les sabots qui collent dans la glaise. Je voulais raconter tout ça. Il me fallait quand même un petit peu de réalité, puisque moi-même, je n'ai pas été peine sardine.
Est-ce que vous aviez une sorte de pression comme ça, en tout cas de crainte de trahir les peines sardines en n'étant pas assez précise sur tel fait ou en inventant trop. Est-ce que vous avez retenu parfois l'imagination ou au contraire, non, vous vous êtes libérée de ça assez vite?
Je me suis posé cette question sur les traditions et les rituels bretons, puisque sur la côte, c'est pas la même chose qu'à l'intérieur des terres. Donc voilà, j'espère que j'ai pas commis trop de contresens historiques.
Et alors, donc, on est à l'usine, on l'a dit tout à l'heure rapidement, mais il faut qu'on revienne sur ces conditions d'un autre temps, et pour cause, c'était il y a 100 ans, mais il y a du travail des enfants, les conditions sont insupportables, les horaires aussi, parce que ça dépend de l'arrivée des marins, des pêcheurs.
Absolument. Donc, s'il faut repartir très tard dans la nuit, arriver très tôt le matin... lâcher tout à l'heure de la messe le dimanche pour repartir à l'usine, alors elles ne doivent pas se poser de questions, elles doivent y aller. Et c'est vrai que les conditions sont difficiles, c'est ça qui va nourrir la colère. C'est moins une grève politique, au fond, qu'une grève du ventre et de la misère.
C'est ça, parce qu'après, il va y avoir la politique qui va s'en mêler de tous bords, etc. C'est ça ce qui est très, très intéressant aussi, c'est que c'est foisonnant. Il y a beaucoup, beaucoup de dimensions à explorer. En plus, vous y rajoutez une histoire d'amour, on va y venir tout à l'heure, mais juste avant de faire une petite pause, on continue le portrait de Rose qui, elle, malgré ses difficultés, baisse la tête et puis travaille, quoi. Au départ, elle n'a aucune intention d'opposer aucune résistance, quelle qu'elle soit.
Oui, Rose, c'est une jeune fille, je l'ai dit, qui a été élevée dans la foi catholique, qui n'a pas été très longtemps à l'école. On n'éduquait pas beaucoup les filles, pas très longtemps, ça ne servait à rien, puisqu'elles étaient destinées à être mères de famille, donc à quoi bon leur donner un bagage trop lourd à porter dans leur esprit. Donc, elle a plutôt une nature docile et obéissante. Elle est un peu fabriquée comme ça, notre Rose qui va se révéler finalement moins docile que cela.
Et grâce à Louise, peut-être, qui arrive dans un instant, on continue à parler du lit clos avec Sophie Broca, lauréate du prix littéraire européen GMF. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bah voilà, j'adore les yaourts Père de lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en bois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal?
Oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de perles de lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 euros est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential Mild Hybride 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et on écoute Bob Dylan sur Europe 1.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to
C'était Bob Dylan sur Europe 1.
18h-19h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Sophie Broca, la lauréate du prix littéraire européen GMF qui signe le Liclos, c'est chez Mialet Barreau, fantastique éditeur. Et c'est l'histoire donc de Rose en 1924 à Douarnenez qui travaille dans une conserverie de sardines. C'est très très compliqué, très dur, on est très très mal payé, 80 sous de l'heure de mémoire. Elles veulent juste 10 centimes ou 20 centimes de plus par heure, c'est pas grand chose. Et puis aussi un peu plus de considération, et puis aussi qu'on arrête le travail des enfants. Et puis aussi qu'on arrive de virer Manu Militari, les ouvrières un peu trop lentes, comme une des amies de Rose. Et quand Rose assiste à ça, c'est quand même une sorte de, un début de déclic.
Oui, parce que au fond, Rose va réagir à l'injustice qui est faite à sa voisine de table avec qui elle travaille. Et cette injustice, ce moment où, on ne sait pas pourquoi, un grain de sable fait qu'on bascule du côté de la révolte, du côté du non, c'est que cette voisine de travail, cette amie, elle est en train de perdre sa mère. Et ça réactive ce chagrin immense que Rose n'arrive pas à vivre de la propre disparition de sa mère. Le fait qu'on interdise à Anna de se porter au chevet de sa mère alors qu'elle est au plus mal, c'est une injustice insupportable pour Rose.
Et alors, c'est aussi pour ça que je l'avais sélectionné pour le prix, c'est qu'il y a une ambiance de camaraderie extraordinaire quand même. C'est souvent, pas souvent, j'en sais rien d'ailleurs, mais c'est peut-être un peu le cas aussi parce que les conditions sont dures et donc on se serre les coudes.
Oui, puis je pense qu'il y avait une conscience ouvrière, une conscience, une solidarité entre des femmes qui vivaient des choses difficiles, chacune dans leur foyer, avec leur mari marin, qui elles avaient peur pour eux, parce que la mère rendait les hommes ou ne les rendait pas, et que quand ils étaient là, ils étaient plus souvent au bistrot, qui était leur seconde famille, qu'à la maison, parce qu'il y avait les enfants qui, on n'avait pas l'argent pour les soigner, et tout ça, ça crée du ciment, c'est des conditions de vie... on se reconnaît dans l'autre.
Et alors, c'est un roman sur les dualités. Ça aurait pu être le titre aussi yin-yang, quoi. Il y a toujours des oppositions qui se créent, comme si vous les aviez cousues tout exprès. Et justement, voilà Louise, qui travaille aussi avec Rose, mais qui n'a pas du tout le même état d'esprit. Qui est-elle ?
Oui, Louise, c'est exactement l'inverse de Rose. Elle est d'abord, elle est un petit peu plus âgée, elle a déjà vécu, elle a été mariée, elle est déjà veuve d'un cheminot. Et c'est une rebelle. Elle a été élevée à l'école républicaine, à l'école laïque. Ça n'existe quasiment pas dans cette Bretagne du début du siècle dernier. Elle est rebelle et c'est une espèce de passionnariat de la justice.
Et alors, il y a une histoire d'amour qui se crée ?
Alors, ça, c'est pas d'entrée de jeu, l'histoire d'amour, mais c'est vrai que Louise, elle a du charisme. Elle va mener un peu la révolte. Elle a une voix d'or. Elle a une voix prodigieuse. Et avec la chanson, avec le chant que toutes les sardinières entonnent derrière, elle va réussir à galvaniser toutes ces femmes et à les faire se coaliser dans l'idée de la lutte. Et ça fascine totalement Rose. Et puis, de fascination en influence, oui, elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre.
Évidemment, c'est impossible à l'époque.
Pas facile.
Mais effectivement, vous le dites, il y a beaucoup de chants dans ce livre. Et alors, je me suis renseigné, je suis allé voir un peu sur Google. Et donc, ce sont des vrais chants. Et ça chantait beaucoup. C'est peut-être même ça, effectivement, qui a créé ce mouvement qui a fini par... Enfin, on raconte pas la fin, mais enfin, qui a créé cet engouement. Et on appelle ça le Pemprez à la Vau.
Alors ça, c'était une espèce de refrain que toutes les femmes entonnaient pour dire « on veut un franc de l'heure, on veut un franc de l'heure en breton ». Mais c'est vrai que les sardinières, elles avaient cette réputation de chanter très bien. Vous imaginez 300 femmes qui se mettent à chanter en même temps la même romance ou le même chant de lutte. Évidemment, ça les aidait à lutter contre le sommeil, ça leur donnait du cœur à l'ouvrage et même les passants s'arrêtaient sous les fenêtres pour les écouter.
Comment vous avez structuré tout ça, Sophie Broca, pour qu'on sente justement que ça commence à vibrer tout doucement, puis que ça prend de l'ampleur? C'est pour ça que je vous pose la question des chants, c'est que ça participe aussi à cette sensation qu'on a en lisant que « oh là, ça va pas s'arrêter là !» que ça prend de l'ampleur, et que bon, il y a tout aussi le cirque autour de récupération politique, etc. Mais, et le maire qui est un personnage fascinant.
Oui, alors bon, j'ai un peu inventé pour le maire, parce que je crois que c'était un homme très très bien, et donc j'en ai fait un personnage un peu plus dans la duplicité, parce que ça m'intéressait aussi de raconter ça. Que, voilà. Comment j'ai structuré, je ne sais pas, ça vient sous le fil de la plume, ça vient parce qu'on veut faire progresser l'histoire. Voilà, c'est un peu mystérieux comment viennent les choses.
Vous n'avez pas de plan particulier, de technique que vous sortez comme ça? Non.
Non.
Vous écrivez comme on lit un roman, quoi.
Oui, j'écris dans une espèce de gourmandise le dimanche et ça vient en effet comme ça vient.
Vous parliez des marins tout à l'heure, donc les marimarins. Quel est leur rôle dans cette histoire?
Alors, les marimarins, d'abord...
Parce qu'elles demandent leur aide.
Alors, au début, ils essaient, certains d'entre eux, en tous les cas, certains patrons de pêche essaient de convaincre les femmes de continuer le travail, parce que si elles ne sont pas là pour mettre en boîte, il est inutile qu'ils sortent en mer, leur pêche sera perdue. Donc, ils essaient de les convaincre, mais devant leur détermination, ils comprennent qu'il faudra suivre, et donc, en effet, ils rejoignent le mouvement. Ce qui est drôle, vous posez la question, c'est drôle parce que dans le journal de l'époque, ouais, c'était clair, quand on regarde comment les événements sont relatés, au début c'est trois lignes, puis ça grandit au fur et à mesure que le mouvement s'enquiste, se durcit, se massifie, mais c'est quand même toujours présenté comme une grève d'hommes.
Ah oui, mais c'est parce que c'est ce que j'allais vous dire, c'est comme aussi une histoire de femmes et de féminisme.
Oui, c'est une histoire de femmes qui... Alors, je ne sais pas si elles étaient féministes, mais...
Non, c'est un peu anachronique de dire ça, mais elle, ça elle crée ne, quelque chose.
Elles ne voulaient plus être esclavagisées à ce point. Elles voulaient un franc de l'heure. Et elles voulaient, en effet, comme vous l'avez très bien dit, de meilleures conditions de travail. Voilà. Et je ne suis pas sûre qu'elles se soient tant battues pour elles que pour leurs enfants. Parce qu'il y avait quelque chose de la reproduction de la pauvreté, où quand on était peine sardine, eh bien, on pouvait être à peu près sûr que son enfant, sa fille, serait aussi peine sardine. Et quand on devenait bourgeois, on rentrait à l'usine qui fabriquait les filets, parce que c'était moins compliqué.
On fait une toute petite pause et on rejoint les peines sardines dans un instant. A tout de suite, Sophie Broca sur Europe 1.
Europe 1.
Peugeot. La Peugeot 208 est unique. Design aux 208 reflets. 208 détails tout en élégance. 208 fois plus de plaisir de conduire. 208 raisons de succomber. Et maintenant, à 208 € par mois, sans aucun apport, avec 4 ans d'entretien offert pendant les 24 jours chrono. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
LLD 49 mois 40 000 km pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers. Contrat entretien plus offert jusqu'au 24 juin si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Mon client, quand il a vu qu'il avait une grosse fissure sur son pare-brise, il voulait vite le faire remplacer. Faites comme lui. Un problème avec votre pare-brise, pensez tout de suite à Carglass. Avec notre plus grand stock de vitrage Carglass d'Europe, votre pare-brise, il est vite envoyé dans le centre que vous avez choisi. Et jusqu'au 20 juin, pour une réparation d'impact ou un remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors prenez rendez-vous tout de suite sur carglass.fr. N'oubliez pas, c'est seulement chez Carglass.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 euros option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 5 000 euros. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiac. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1, 18h-19h, la voie est libre.
Nicolas Carreau.
La voie est libre continue toujours avec Sophie Broca pour le Liclos, c'est chez Miel et Barreau. Vous êtes la lauréate du prix littéraire Europe 1 chez MF. Et merci d'être là pour parler de votre roman. Je l'ai dit tout à l'heure, on est chez les Pennes Sardines, c'est-à-dire en 1924, à Douarnenez, dans les conserveries de sardines où les conditions sont très dures. On est très très mal payé. Il y a Rose, l'héroïne, qui est là, qui devient très amie avec Louise, qui elle est une sorte de passionnariat comme ça de lutte, alors que Rose était au départ beaucoup plus réservée, en retrait. Mais il y a cette camaraderie et ces liens humains qui vont créer cette chaîne qui créera ensuite cette puissance. En fait, il n'y a que ça, on le sait bien. C'est quand on s'unit qu'on arrive à ses fins.
Exactement, le pouvoir naît de l'union. Et là, c'est vrai que je voulais raconter comment une grève, comment un objet collectif, un objet ou un but collectif, crée de l'énergie, donne de l'énergie, y compris à celles qui hésitent, et puis crée une espèce de bulle d'ivresse. Et dans cette bulle d'ivresse, tout est possible. Tout d'un coup, ça devient possible de dire non au patron, au curé, au mari, et ça devient même possible peut-être d'aimer une autre femme.
Alors, on ne va pas en dire trop, quand même sur le destin des personnages. Vous m'arrêtez hein, si je vais trop loin. Mais on peut quand même dire qu'on ne reste pas à Douarnenez. C'est-à-dire que Louise s'en va pour Paris, on ne dira peut-être pas pourquoi, mais elle va rencontrer une femme qui est un personnage très intéressant, de comtesse. On va y revenir, mais juste avant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un roman sur la dualité. Et là, on mesure la dualité rurale-urbain à cette époque-là. Le fossé est quand même gigantesque.
Oui, mais ça reste un fossé qui perdure. Hein. Comment, dans un même pays, au même moment, au fond, deux mondes coexistent, un monde qui est tourné vers l'avenir, vers l'innovation, vers qui est pressé de vivre, et puis un monde de province qui est plus ancré dans ses traditions, où les choses bougent, mais plus lentement, un peu comme comme des plaques tectoniques qui bougeraient de manière quasi invisible. C'est vrai.
Et alors, il y a ce personnage de comtesse qui est fascinant, qui a un secret qu'on ne dévoilera pas. Mais j'ai senti que vous l'aimiez beaucoup, ce personnage, non ?
Oui, elle est drôle, elle est fantasque, elle se déguise, elle adore l'avant-garde. À ce moment-là, Paris, qui sort de la Première Guerre mondiale et qui a tout d'un coup pris conscience que le monde était mortel, est très pressée de vivre et d'inventer des formes nouvelles. Et donc, cette comtesse, elle tient salon et elle reçoit les plus grands artistes de l'époque, de l'avant-garde. Et pour Louise, c'est une découverte.
Et qu'est-ce qu'elle enseigne à Louise, justement ?
Je ne sais pas si elle lui enseigne quelque chose. Elle lui montre que c'est possible qu'elle continue à être celle qu'elle a envie d'être. En fait, elle lui permet d'être elle-même. Ça, c'est intéressant de voir comment, finalement, un événement collectif comme une grande lutte sociale comment ça transforme les gens ou pas, et comment ça les transforme différemment selon ce qu'ils étaient au début. Ce que ça va faire, ce que la grève va faire sur Louise, va produire sur Louise, n'est pas du tout la même chose que ce que la grève va produire sur Rose, et chacun a son chemin. Et au fond, la comtesse, elle permet à Louise de continuer à cultiver cet esprit rebelle et émancipé qu'il habitait déjà avant.
C'est ça aussi ce qui est au cœur de ce roman, c'est pas seulement les événements et les rencontres qui façonnent les destins des individus, mais l'idée c'est aussi de dire, vous avez le choix, vous pouvez décider de prendre plutôt à droite qu'à gauche, ou de faire confiance à telle personne ou à telle autre.
Exactement, ouais, ça c'est un peu ce qui fait notre humanité, la liberté de choix, c'est aussi ce qui nous encombre beaucoup. Puisque avoir la liberté de choix, c'est une sacrée responsabilité. Mais voilà, les deux femmes, Rose et Louise, ne vont pas faire les mêmes choix. Et je pense qu'il n'y a pas à juger l'une ou l'autre. Chacune fait ses choix avec des résultats différents d'ailleurs.
Alors on est allé très loin, mais ça c'est plus anecdotique. Le mari de Rose est un pêcheur de Douarnenez, mais il veut absolument partir pêcher la langouste en Mauritanie.
Oui, mais ça, c'est un fait historique.
Oui, c'est ce que je me suis dit.
Oui, c'est un fait historique, c'est-à-dire... mais c'est vrai partout, si vous voulez, à Saint-Jean-de-Luz ou à Guétari, vous aviez des pêcheurs de baleines. Et quand les baleines ont déserté le golfe de Gascogne, ben, ils sont partis plus loin, ils sont partis jusqu'en Terre-Neuve. Et vous avez des sardines dans la baie de Douarnenez. Et quand la pêche est mauvaise et que la sardine est frugale, alors certains osent partir plus loin, leurs risques et périls, mais on gagne beaucoup d'argent quand on va alors pêcher la langouste en Mauritanie, parce que c'est une pêche dangereuse, on part longtemps, mais on est capable de se construire, disait-on, deux maisons chaque année, parce qu'on gagne beaucoup d'argent.
Sophie Broca, vous signez donc Le Lit Clos, qui est votre cinquième roman, qui vient de remporter le prix littéraire européen GMF, mais c'est pas votre seule activité.
Non. C'est difficile de vivre que de sa plume, j'aimerais beaucoup, peut-être grâce au prix européen GMF, ce serait possible, mais non, je travaille pour l'État.
Et comment vous écrivez ?
Alors j'écris le dimanche, puisque j'ai des semaines assez remplies, avec des occupations assez exigeantes, mais le dimanche, voilà, c'est mon espace à moi, plutôt que d'aller courir, faire des gâteaux, voilà, j'écris et c'est... c'est mon espace de liberté, c'est l'espace où le réel n'a plus la tête dure et où je peux faire ce que je veux de mes personnages.
Et vous avez une urgence comme ça à écrire, c'est aussi ça ce qui vous fait avancer vos romans, de vous dire, bon, j'ai 3 heures, après c'est terminé, demain il faut reprendre le boulot.
Alors d'abord le dimanche c'est plutôt 12 heures que j'ai devant moi et pas 3 heures. Non, je ne sais pas, c'est une nécessité pour moi d'écrire. Je pense que je ne saurais pas faire autrement que d'écrire, c'est très important.
Vous avez des rituels ? Vous vous grattez l'oreille, vous tournez 3 fois sur vous-même avant d'écrire, vous allumez quelque chose, vous mettez face à quelque chose ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Je sais pas, il y a une espèce d'entraînement inconscient. Mes personnages ne me terrorisent pas, ne me tyrannisent pas pendant la semaine. Et le dimanche, quand je m'assois à ma table, ils sont là. Ils sont très très courtois avec moi parce qu'ils sont très facilitants. Ils sont là et voilà, ça vient tout de suite. Après, c'est pas forcément bien ce que j'écris. Mais je veux dire, j'ai pas besoin de rituel pour retrouver Rose, pour retrouver Louise, pour retrouver les personnages de mes romans précédents.
Vous y pensez pas particulièrement pendant la semaine ? Vous
non.
Prenez pas de notes pendant la semaine ?
Non. Peut-être que ça travaille secrètement.
En tout cas, il continue de vivre chez les lecteurs maintenant.
C'est formidable.
Le Lit Clos, c'est chez Miel et Barreau. Prix littéraire européen GMF. Merci beaucoup, Sophie Broca.
Merci à vous, vraiment. Merci
à
beaucoup.
À bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant, visite de bibliothèque. Nous partons chez l'écrivaine Emma Becker.
Bonjour, c'est Pascal Praud. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Praud et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre.
C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Praud et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Peugeot.
Pour tous les amoureux et les passionnés de l'automobile, les 24 heures du Mans, c'est bien sûr 24 heures de course. Mais c'est surtout 24 heures d'émotion. Et chez Peugeot, on vous en offre 24 fois plus. Jusqu'au 24 juin, ce sont les 24 jours chrono avec des offres exceptionnelles sur toute la gamme Peugeot. Jusqu'à 5000 euros d'avantage client et 8 ans de garantie offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre valable pour toute commande d'une Peugeot neuve réservée aux particuliers. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Et on écoute Johnny Hooker sur Europe 1.
Shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, 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 how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead right off my feet. How, 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 how. Yeah, yeah. Now, baby.
C'était Johnny Hooker sur Europe 1.
18h-19h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.
On la connaît pour La Maison, dans lequel elle racontait son quotidien, dans une maison close de Berlin. Et puis il y a eu L'Inconduite depuis, Superbe, et dernièrement Le Mal Joli, chez Albin Michel, une histoire d'amour et de sexe. On l'avait reçue dans l'émission à la sortie de ce livre, et maintenant, c'est elle qui nous reçoit. J'étais curieux de voir de quel livre elle se chauffe, et je vous emmène sur Europe 1. Bonjour Emma Becker.
Bonjour Nicolas.
Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. J'ai presque envie de dire merci de nous accueillir dans un de vos romans.
Oui, c'est un peu ça. Ouais.
J'ai l'impression de déjà connaître cet appartement, parce que vous en avez parlé déjà. J'ai croisé votre mari, dont vous parlez aussi dans vos romans. C'est étonnant quand même, ça. Quand on vous rencontre, on a l'impression de vous connaître. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, j'imagine.
Ouais, c'est plus compliqué, mais en fin de compte, pas tellement. C'est aussi comme ça que j'écris mes livres. C'est-à-dire que tout est à peu près... ça ressemble à ce que j'écris, dans mes bouquins. Je n'embellis pas grand chose, donc c'est exactement voilà, la façon dont je vis, mon désordre, voilà, c'est authentique.
C'est un petit appartement avec du parquet, et puis il y a plein, là on est dans la chambre, avec un lit, des vêtements, et puis la bibliothèque qui est juste là, et puis il y a des tableaux un peu partout, des très beaux tableaux, d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors ça c'est ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, qui peint, qui a toujours peint, et qui, notamment celui que vous voyez en haut, avec une dame munie d'un organe mâle en plein milieu du front, c'est le tableau que ma grand-mère a peint quand j'ai sorti mon premier roman, Monsieur, et j'imagine qu'elle voulait me faire passer un message, j'ai toujours pas compris lequel, mais c'est un tableau qui fait très peur à mes enfants, donc je le garde dans ma chambre.
Il est assez monstrueux, mais en même temps il y a beaucoup de couleurs, il y a une sorte de beauté quand même qui s'en dégage.
Ah bah oui, elle est très très forte en couleurs.
Tous les autres tableaux sont très soft, je tiens à le dire quand même.
Par rapport, oui, ça c'est moi qui lui ai inspiré, elle a eu sa période un peu bataille avec moi, alors je pense qu'il y a une menace implicite, une sorte de vanité dans ce tableau, mais j'ai pas encore compris laquelle.
Et alors, la bibliothèque est là, mais je dois dire que je serais bien normal de trouver un classement.
Ah,
il y a beaucoup de Stephen King, on va en parler aussi. Mais comment est-ce que vous... Oh, il y a mon livre préféré, un de mes romans préférés.
Ah, merci, Ripley de
Ken Greenwood.
Écoute, alors ça me fait vraiment très plaisir de vous entendre dire ça, parce que Ripley, c'est un bouquin dont je parle à tout le monde. Personne n'a l'air de l'avoir lu. Je me demande pourquoi personne n'en a jamais fait un film. J'avais entendu dire que Spielberg avait acheté les droits, mais alors pour le moment, il n'en a rien fait. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai jamais lu. On peut le relire 5 ou 6 fois, on est en larmes à chaque fois. Non, c'est vraiment un très 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 beau livre.
C'est l'histoire d'un gars qui a une quarantaine d'années, qui bosse à la radio et puis qui s'emmerde un peu, et au début du roman il est au téléphone avec sa femme, avec qui il s'emmerde aussi un peu, ils n'ont pas d'enfants, et puis pendant la conversation, on est à la 3e ligne du roman, crise cardiaque. Ouais. Il se réveille dans sa chambre d'étudiant, il a 18 ans, et il se rend compte qu'il peut refaire sa vie, la conscience de sa vie d'avant. Il se souvient aussi de quelques courses et quelques matchs de baseball qui lui permettent de gagner un peu de sous. Et puis ensuite, à 44 ans, clac, il repart. Sauf qu'il repart pas exactement à 18 ans, il repart à 18 ans et 3 ou 4 jours, un truc comme ça. Ouais. Et au fur et à mesure, il va refaire ses vies encore. Mais à chaque fois, il revient un peu plus tard dans sa vie.
Ouais, tout à fait.
Alors les Stephen King, il y en a un peu partout.
Ouais.
Un peu dispatché à droite à gauche. Quand est-ce que vous avez rencontré Stephen King? Est-ce que vous le lisez encore? Est-ce que vous le lisez autrement?
Ah ben je le relis avec beaucoup de plaisir. Je le relis notamment parce que j'aime bien lire des nouvelles à mon fils aîné, Émile, qui a 8 ans et qui adore aussi toutes les histoires d'horreur.
Vous lisez du Stephen King?
Ouais, mais alors Stephen King, c'est un peu un challenge à lire à un enfant, parce que comme c'est très bavard et que tout le sens de Stephen King tient dans ces bavardages-là, comment en faire une version un peu abrégée, intéressante pour les gosses? Mais ça garde les parents sur la brèche aussi. Moi, je trouve ça très agréable de devoir recomposer une histoire pour en parler à mon petit garçon.
Vous avez beaucoup de littérature du réel, ça je m'y attendais. Il y a Hunter Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas. Alors, nous, on le connaît plutôt sous le titre Las Vegas Parano. Il y avait eu le film avec Johnny Depp, mais c'est aussi le titre de la version française du bouquin. Il y a Hells Angels d'Hunter Thompson, où il passe du temps chez les Hells Angels et après il raconte son expérience. Enfin, c'est un journaliste complètement déglingué, mais qui raconte aussi le réel. Et puis, vous avez le maître du genre, De sang-froid, Truman Capote. Bon, vous vous inscrivez un peu dans cette lignée-là ou pas?
Plus Hunter Thompson que Truman Capote, et encore, quand
et encore,
je dis plus,
vous adorez le fait divers, vous ?
J'adore le fait divers. Mais Truman Capote, par exemple, j'ai jamais vraiment accroché. Je trouvais ça très froid, très... Dans le genre fait divers, pour moi, la maîtresse incontestée, enfin, ce que j'ai eu de plus impressionnant, c'est quand même Kate Millett, quand elle écrit en 79, je crois, un livre qui s'appelle en français La Cave, Méditation sur un sacrifice humain. Un auteur fantastique dont j'ai oublié le nom contemporain, on a fait un thriller absolument formidable, quasiment illisible même pour Stephen King, c'est dire. Et en fait, elle raconte un fait divers des années 50 où une jeune fille de 16 ans a été retrouvée morte sous la garde d'une dame qui était censée la garder pendant que ses parents, qui étaient forains, traversaient les États-Unis. Et on l'a retrouvée morte de faim, ébouillantée, enfin dans un état abominable, avec marqué sur son abdomen « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Et en fait, on s'aperçoit que c'est cette dame d'une quarantaine d'années et ses enfants qui ont pris cette fille en grippe et qui l'ont tuée comme ça sur plusieurs mois. Et Kate Millett, étant une féministe des années 70, refait une lecture finalement féministe de cet événement en expliquant que tout ça découle aussi de la façon dont les femmes à cette époque vivent leur maternité, leur... C'est-à-dire que cette femme qui tue cette petite fille est dans un état d'épuisement, de pauvreté tellement terrible finalement qu'on se retrouve dans une situation où les femmes se jettent sur les femmes, agacées par cette odeur de féminité qu'a la jeune fille et qu'elles, elles n'ont plus parce qu'elles sont épuisées par leur vie. C'est un livre que je recommande absolument à tout le monde, qui malheureusement est très difficile à trouver, mais que je ne renonce pas à l'idée de faire reparaître avec un appareil critique.
Et vous avez la version originale,
ouais.
C'est The Basement, Kate Millett.
Millett.
Simon & Schuster, ça c'est l'éditeur.
C'est paru chez Fayard, hein. Alors ça se trouve peut-être encore, mais faut s'accrocher.
Et donc en français, c'est comment, rappelez-nous ?
La Cave, la méditation cave. Sur un sacrifice humain.
Et alors ça, vous avez saisi justement ce bel exemplaire, et avant d'allumer les micros, je vous ai dit, s'il y en a un ou deux à côté desquels il ne faut pas passer, lesquels ce serait ? Vous m'aviez parlé de celui-là,
ah, oui.
Et puis vous avez parlé aussi de Betjeman.
Oui, John Betjeman, qui est un poète anglais, il était le poète officiel de la reine dans les années 70, et je l'ai connu de façon plutôt cocasse en regardant la version anglaise de The Office, avec Ricky Gervais, où à un moment, Ricky Gervais récite face au micro un poème qui s'appelle Slough, qui est sur la ville de Slough en Angleterre. Mm-hmm. Betjeman avait fait un poème absolument terrible sur cette ville post-industrielle où plus rien ne ressemblait à rien. Et j'ai adoré comment ça sonnait. Et je me suis plongée dans l'œuvre de Betjeman, et mon grand projet serait de le traduire. Mais enfin,
parce qu'il n'a jamais été traduit.
Jamais, mais parce que c'est compliqué de traduire de la poésie. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on trahit ? Est-ce qu'on trahit la rime ? Est-ce qu'on trahit le sens ? Est-ce que c'est vraiment un projet sur lequel je m'arrache les cheveux depuis quelques années.
Il faut la version originale à côté de la version française.
Ça, et puis surtout avec la perspective de, même si c'est publié, qui va le lire, quoi. Au fond, en France, on lit plus de poésie. On en parle plus, ce qui est très dommage. Je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un poème, hein, quand on le connaît par cœur.
Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah évidemment, on a des dessinateurs, beaucoup.
Bien sûr.
Je vois Reiser ici.
Ah, mon
Reiser,
maître absolu.
Pardon.
Mon
je
maître
pense que je dis Reiser.
Reiser.
Alors, souvent, quand on tombe sur Reiser, c'est le maître.
Ah bah bien sûr, il n'y a rien d'autre.
Pourquoi ?
Pourquoi Reiser ? Parce que déjà la simplicité du trait, l'efficacité du trait qui ressemble à du gribouillage, c'est un peu le Quentin Blake des adultes finalement. C'est-à-dire on dirait que c'est facile, en fait ça ne l'est absolument pas. Il y a des dessins de Reiser, il n'y a même pas besoin de bulles pour avoir des fous rires, c'est miraculeux. Et puis moi j'aime beaucoup Reiser parce qu'il ne prend pas les nanas pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'il traite les nanas comme des copains. C'est-à-dire les nanas sont tout aussi critiquables, tout aussi ridicules, drôle finalement que les hommes. Il n'y a pas besoin de prendre des pincettes avec les femmes plus qu'avec les hommes.
Vous avez l'intégrale de Manara.
Bien sûr.
Ah, ça, on s'y attendait un petit peu.
Bah, c'est le grand, pour moi, le grand
BD
incubateur
érotique,
de fantasmes.
Pornographique même.
C'est même pornographique. On disait de Manara que c'était les plus beaux trous du cul de la littérature, de la BD érotique. Et c'est la vérité. Et c'est pareil, il fait ça avec deux traits. On serait bien en peine de le faire nous-mêmes. Et moi, tous les gens que je côtoie ont lu Le Déclic et ont tous été formés jeunes à cet univers-là.
Alors, vous avez Maus,
ouais.
De Art Spiegelman. Je crois que c'est le livre que je trouve avec Monte Cristo dans toutes les bibliothèques.
Bah oui, c'est un peu un monument. On peut difficilement passer passer outre. Après, voilà, moi je l'ai lu et relu et j'attends le moment de pouvoir le donner à mes enfants. Mais c'est ça qui est très cruel quand on est écrivain et qu'on a des enfants, c'est que premièrement on peut jamais rien lire de ce qu'on fait à ses propres enfants. Enfin surtout moi. Et on a comme ça toute une pile de livres qui vibrent sur nous et qu'on a qu'une envie, c'est de leur faire lire. Mais on a peur aussi de les dégoûter par notre propre enthousiasme. Et oui. Parce que vous savez bien que plus vous parlez de quelque chose avec enthousiasme à quelqu'un, et plus cette personne, en fait, vous lui avez survendu le truc, et elle risque d'être déçue. Donc la meilleure solution, je trouve, c'est de laisser les livres de façon ostentatoire sous le nez des enfants, jusqu'au jour où l'envie les prendra d'aller chercher, j'espère pas, peut-être pas Riser tout de suite, mais quoique, moi je lisais Riser, j'avais 9 ans, 10 ans, je lisais en secret, ça a été mes plus belles heures.
Merci Emma Becker pour la visite.
Merci Nicolas.
À bientôt.
Et je rappelle Le Mal Joli, c'est aux éditions Albin Michel, c'est le dernier livre d'Emma Becker. Dans un instant, encore des livres sur Europe 1, les chroniqueurs de La Voix et Livre sont là pour parler bande dessinée et littérature jeunesse.
Europe 1. Rouler en électrique ou hybride ? Ok. Avec la qualité allemande ? Évidemment. Et sans dépasser son budget ? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer. Avec Carglass, c'est simple, vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. Et jusqu'au 20 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99 euros par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre réservée aux particuliers, valable du 12 au 16 juin pour Sandero Essentiel SE 65 9 euros option. Premier loyer 1 700 euros LLD 49 mois 50 000 km si accordiac. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à date à janvier 2025. Pensez à covoiturer.
18h-19h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Lu et approuvé, le kiosque des chroniqueurs de La Voix est libre qui sont là avec notre libraire du soir, Anne Burzinski, patronne de la librairie L'Écriture. C'est à Vaucresson, la mystérieuse Héloïse Goy, littérature jeunesse, et le singulier Sébastien Bordelais.
Je peux pas échanger, je peux pas être mystérieux.
Bah, prenez mystérieux pour la bande dessinée. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous.
Honneur au libraire, de quoi nous parlez-vous, Anne?
Alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Qui tu aimes, jamais ne perdra ».
Oula, ok.
Ouais, ça envoie tout de suite. Ça calme. Aux éditions Philippe Ray, en grand format et en poche. En poche aussi, c'est chez Philippe Ray.
Très belle couverture, comme toujours.
Nathalie, la couverture est splendide, en grand format comme en poche, justement. Nathalie Bauer, vous vous souvenez peut-être d'elle, elle est donc évidemment autrice, elle est aussi traductrice. Elle avait traduit notamment un livre dont j'avais parlé qui s'appelle « La librairie sur la colline » de Alba Donati, qui était cette histoire de cette poétesse italienne qui a ouvert sa librairie à la cinquantaine dans un petit village de Toscane. Et donc, elle avait traduit ce livre.
C'est un peu votre rêve, ça.
Ah oui. Et c'est vrai qu'elle nous mettait des étoiles dans les yeux, on peut le dire. Et elle, alors, traductrice extraordinaire, mais aussi autrice extraordinaire et docteur en histoire. Tant qu'à faire, parce que sinon, ce serait dommage. Mmh. Voilà. Et ça se sent dans ce livre parce que justement, on va voyager dans le temps et dans l'espace. Elle va nous emmener à la fois dans la Rome antique, dans la Suisse médiévale, au 17e à Amsterdam. Enfin, on va voyager. Et à chaque fois, j'allais dire, le fil conducteur, c'est une histoire d'amour. Alors, on peut imaginer que soit c'est la même histoire d'amour qui renaît époque après époque, comme si on se retrouvait toujours. Et c'est vraiment l'idée, d'ailleurs, du livre. Mais on peut aussi se dire qu'en fait, à chaque époque, déjà, on est complètement plongé dans l'histoire. Parce qu'encore une fois, elle, l'histoire avec un grand H, elle la connaît, Nathalie Bauer. Donc, elle sait nous la raconter. Elle a les tournures de phrases, elle a le vocabulaire. Mais sans que ce soit jamais ardu, sans que ce soit jamais de l'exercice de style, c'est juste sublime en fait, on est juste en littérature. Et donc on a ce voyage-là, et donc on peut se dire sinon que c'est juste une histoire d'amour magnifique à chaque fois, avec une notion d'absolu, mais ça peut être des histoires d'amour différentes. Ça peut être des amants, comme ça peut être des frères et sœurs, comme ça peut être l'amour filial. Dans tous les cas, c'est l'histoire d'amour ultime. Mmh. Et c'est d'une beauté, évidemment, sans nom, quoi. Enfin...
Oui, ça a l'air très délicat, d'une grande finesse.
C'est incroyable. Et à chaque fois, à chaque époque, c'est vraiment le parler de l'époque. C'est une plongée. Enfin, c'est littérairement, c'est dingue. Moi, j'ai jamais lu ça. Et je suis renversée, quoi.
Qui tu aimes jamais ne perdra, Nathalie Bauer, c'est chez Philippe Rey. Aucun lien avec Jack Bauer.
Non, pas que je sache.
Héloïse Goy, littérature jeunesse.
Alors, je vous propose de deviner le titre du livre jeunesse que je vous présente aujourd'hui. Oh, bah, écoutez bien. Mm-hmm. Elle a les...
Bélinda.
Merci, parfait.
Oh, c'était facile, ça.
Bélinda. Ici, c'est un chat d'intérieur tout à fait intéressant, à tel point que cet album lui est consacré. C'est écrit et illustré par Elea Dos Santos. Alors, le maître de Bélinda s'appelle Léon. Il est très sympa, ce monsieur, mais il est terrifié par le monde extérieur qui change beaucoup trop vite à son goût. Son truc, c'est de rester à la maison, de se faire un bon chocolat chaud tous les jours à l'heure du goûter. Mais à voir le temps qu'elle passe... oui, et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, il s'occupe bien sûr de Bélinda à la maison. Mais à voir le temps qu'elle passe devant la fenêtre, Bélinda, elle semble très, très attirée par l'extérieur. À tel point qu'un matin, Léon ouvre le rideau et découvre sa chatte perchée en haut d'un arbre. Léon panique, il essaye de se pencher de la fenêtre pour la récupérer, mais patatras, il bascule vers cet extérieur qu'il craint tant. Bon, entre-temps, Bélinda est rentrée à la maison, mais Léon, lui, se retrouve coincé dans de drôles de paysages. Et c'est là que ce livre est rigolo, regardez bien. La fenêtre change de décor à chaque page, et chaque paysage est un clin d'œil aux univers de peintres célèbres.
Ah, oui.
Léon se retrouve par exemple submergé par la grande vague de Kanagawa, d'Okusai.
De Saint-Phal aussi.
Absolument, ouais. Il se balade ensuite sur le pont du jardin d'Aude Giverny de Claude Monet. On reconnaît aussi le tableau de Friedrich que j'adore, le voyageur contemplant une mer de nuages. Il y a du Georges Seurat, du Matisse, du Magritte ou encore, oui Sébastien, l'avez reconnu, du Niki de Saint-Phal. Bon, c'est l'occasion voilà. C'est l'occasion pour Léon de constater qu'il existe tout de même de bien jolies choses en dehors de chez lui. Voilà, une très jolie manière d'illustrer le monde et d'initier les plus petits à l'art. C'est délicat et malin. Bélinda d'Elea Dos Santos aux éditions Hongfei. Je ne sais pas comment on prononce, pardonnez-moi si j'écorche le nom.
Hongfei.
Et puis, rien à voir, mais je voulais vous signaler une breaking news sur le petit ours brun. Pour fêter ses 50 ans et pour favoriser la lecture dans toutes les familles, figurez-vous que le mythique petit ours brun va bientôt être décliné en version audio dans plusieurs langues, dont l'arabe, le chinois, le turc ou encore l'ukrainien. Voilà, c'est une nouvelle de Bayard Jeunesse.
Magnifique.
Qui m'amuse beaucoup.
Merci beaucoup, Héloïse Goy. Sébastien Bordenave, la bande dessinée.
Oui, si comme Gérard Lenormand, vous aimez parler aux oiseaux, au soleil et aux forêts, eh ben je vous propose Grand Cormoran, c'est chez Cornelius. L'autrice, c'est Delphine Panique. Pas
c'est
de panique, c'est un pseudo. Oui, exactement. C'est une petite BD par la pagination, mais aussi par le prix, je vous rassure. Mais c'est grandiose par la poésie. C'est l'histoire de Kim, elle est célibataire, elle voit deux canards qui cancanent, et du coup, elle imagine des dialogues. Dégage, mais comment tu me parles, gros canard hystérique? Et après, tu t'en vas, mais non, reviens, je t'aime, je suis enceinte. Elle imagine des dialogues entre deux canards. Et puis après, elle regarde sur Internet, mais c'était vraiment des canards. Mais non, c'était une oie et une foulque. Ça va devenir une obsession pour elle. En fait, elle va observer et puis voir qui sont ces oiseaux. Alors, elle dit « Ah bah ça, c'est un héron, une grande aigrette. » Elle parle d'oiseaux à ses amis et contre toute attente, ça passionne tout le monde. Et nous avec, parce qu'on aime les oiseaux, parce qu'ils volent.
Et puis en
plus, c'est les derniers sauvages qui osent vivre à nos côtés, les oiseaux. C'est des dessins minimalistes.
Ouais, ils ont même un peu trop la confiance parfois.
Oui, des fois un petit peu. Oui. Je vois de quoi vous parlez. Ça s'appelle Grand Cormoran chez Cornelius et c'est top.
Parfait. Ensuite, une grande BD, très très belle.
Oui, j'avais une pensée pour Joe Hume, notre camarade, collègue spécialisé dans la musique en général et immense le rock en particulier, immense Joe Hume. C'est une BD publiée chez Dargo de Stéphane Wary. Alors Stéphane Wary, il a fait des illustrations pour L'Express, pour La Croix, il a même fait une BD sur Lino Ventura, que j'ai pas lu, mais que j'ai envie de lire, voilà. Et là, donc, vient de sortir « Les héros du peuple sont immortels ». C'est l'histoire incroyable en BD de Gilles Bertin. Alors, Gilles Bertin, en fait, c'est une plongée sans concession dans le gangstérisme punk bordelais des années 80. Ah oui, c'est une niche, hein, c'est ce qu'on appelle une niche. Gilles Bertin, il a vraiment existé. C'était le leader du groupe Caméra Silence. On ne connaissait pas. Rocker va rimer avec braqueur. On est dans les années Sida. Suite à un braquage, il va être condamné par contumace. Il va faire une cavale de 28 ans quand même. Il va finir par se rendre à la police. Ah oui, c'est pas de la BD pour fillettes, hein. Les dessins sont bruts, faut s'accrocher. Et surtout, ça oscille entre histoire romancée et BD documentaire, parce que tout ça est vrai. Et ça m'a passionné de découvrir un monde, bah, le monde des punks, qui m'est aussi étranger que vous, Nicolas, et l'haltérophilie.
Un petit peu punk, quand même.
Ah oui, un petit peu punk. Punk
vous avez un petit côté.
Punkounet. Ça s'appelle Les héros du peuple sont immortels, la cavale de Gilles Bertin de Stéphane Wary chez Dargo.
Merci beaucoup, Sébastien. On rappelle les titres, Héloïse Goy?
Belinda d'Elea Dos Santos aux éditions Hongfei.
Anne Burzinski.
Qui tu aimes jamais ne perdra de Parfait. Nathalie Bauer aux éditions Philippe Rey.
Et on termine avec une petite citation peut-être, Sébastien Bordenave.
Oui, un dessin de Guéluron de Gottlieb, mais là dessiné par Fab Caro et Pixel Vengeur. Alors il y a Guéluron qui arrive, il postule pour un emploi de traducteur franco-russe. La dame lui dit mais vous parlez le russe? Et Guéluron dit je parle que français mais je peux me contenter de la moitié du salaire. Pas mal, ça passe.
Très fort. Merci à tous les trois. C'était le dernier chapitre de La Voix est libre pour cette semaine. Merci aussi bien sûr à Agnès Vaudin et Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. Je vous rappelle en passant que demain, de 9h30 à 11h, ce sera Culture Média avec l'ami Thomas Hill, comme tous les jours. Et demain, il recevra Fred Testo et Jonathan Lambert. Dans un instant, bienvenue à Pascal de la Tour du Pin pour Europe 1 Soir Weekend. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1.
Pascal de la Tour du Pin.
Bonsoir à tous, c'est Europe 1 Soir Weekend. Nous sommes en direct 2 heures pour vivre l'actualité, la décrypter avec les éditorialistes, les journalistes et les invités. Paul Melun et Jules Torres sont déjà en place. Bonsoir messieurs.
Bonsoir, bonsoir cher Pascal. Pascal.
C'est rare qu'à cette heure-ci, vous... Non, bah vous aussi Jules Torres.
C'est rare que Jules Torres soit brillant, donc je pourrais aussi lui dire ça. Moi.
Voilà, c'est le niveau bas de gamme.
Merci d'être là ce soir. Évidemment, la guerre entre...